Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Nous sommes vendredi 5 novembre 2021. Vous êtes bien sur la radio Inzamba Gatseka Kawe et c'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principales articulations. Les Burundais ne devraient pas se rejeter la responsabilité à propos d'un génocide des personnes et de telle ou telle autre ethnie. Le chef d'État, Evariste Ndayishimiye, l'a dit ce jeudi à Gitega lors d'une retraite gouvernementale. L'opposition politique pense que cela n'est pas un discours du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et on parlera dans ce journal de cette écorance des devises qui crèvent les yeux au Burundi. La population appelle le gouvernement à tout faire pour que cette situation ne puisse pas provoquer une hausse généralisée des prix des produits de première nécessité. Et enfin, les agriculteurs de la province de Makamba sont mécontents. Depuis 2 mois, ils ont payé des engrais chimiques pour la saison culturelle 2021-2022, mais ils n'ont pas encore été servis. Et voilà pour le sommaire de ce journal qui vous sera présenté par Alice Akimana dans quelques poussières de secondes et le développement de ces titres.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Nous parlons insécurité pour commencer ce journal. C'est le silence qui tue. La population se fait décimer au quotidien sans que les autorités nous disent mot. La découverte des corps sans vie est devenue le lot quotidien de la population dans différents coins du pays. Mais plus que l'insécurité, le mutisme de l'administration et du sommet de l'État est encore plus alarmant. Voici l'éditorial de la rédaction de la radio Inzamba avec Franck Kazé.
La sécurité se détériore de plus en plus ces derniers jours dans différentes localités du pays, particulièrement dans les provinces de Cibitoke et Bururi. Aucun jour ne passe sans que des corps sans vie soient découverts, des personnes assassinées, mais dont les meurtriers ne sont pratiquement jamais identifiés. Surtout que l'administration s'empresse aussitôt de les faire enterrer sans aucune enquête préalable. Le plus inquiétant, malgré ces découvertes macabres, c'est le silence tant de la population que des autorités. Mais qui ne comprendrait pas le mutisme de cette population qui vit sous la terreur, qui ne peut pas se permettre de hausser le ton de peur de se voir prise pour cible, puisqu'elle ne l'était déjà. Par ailleurs, le simple fait de montrer l'endroit où se trouvent les corps peut vous valoir d'être taxé d'être l'auteur du meurtre. Mais qu'est-ce qui peut empêcher les administratifs, eux, d'en parler? Pourquoi se terrer dans ce silence si assourdissant? Est-ce pour couvrir les assassins? Ou est-ce pour obéir aux ordres venus d'en haut? Plus de 10 personnes tuées dans un laps d'une seule semaine dans une province, et les autorités restent quoi? Une attitude pour le moins honteuse dans un 21e siècle où il n'y a plus de secret. Ailleurs, quand une et une seule personne est tuée, ce sont toutes les autorités, à commencer par le chef de l'État, qui se lèvent pour condamner l'assassinat, apaiser la population et, ensuite, traquer les meurtriers qui sont aussitôt traduits en justice et condamnés. Et tout le monde prend ainsi conscience que l'acte de tuer est un crime qui ne reste pas impuni. Au Burundi, depuis que ces découvertes macabres se sont décuplées en province de Cibitoke, le gouverneur provincial n'a jamais rien dit sur ce sujet. C'est à croire s'il ignore ce qui est en train de se passer chez lui ou, simplement, si cela ne le concerne pas. Mais cette même attitude s'observe chez d'autres gouverneurs, comme celui de Bururi aujourd'hui ou encore celui de Muyinga, lorsqu'au cours des mois d'août et septembre dernier, des corps sans vie étaient trouvés chaque jour dans le silence total de l'administration, comme si de rien n'était. Le ministre en charge de la sécurité, qui pourtant s'exprime souvent à travers les médias, n'a jamais condamné ces crimes. Silence radio également chez le président de la République, alors que le même Evariste Ndayishimiye n'a de cesse de s'empresser d'exprimer ses regrets lorsque dans d'autres pays, des gens sont tués en masse. Alors pourquoi? Pourquoi l'impunité reste la règle de la gouvernance au Burundi? Eh bien, cela n'a d'autre objectif que de cacher la vérité pour faire croire aux bailleurs de fonds qui ont pris des sanctions contre le Burundi que tout va bien dans le meilleur des mondes. Chanter à tout bout de champ que la sécurité est totale au Burundi alors que les gens passent tout leur temps à enterrer les leurs, il n'y a rien de plus cynique que de remuer leurs plaies de la sorte. À côté de ceux qui sont tués, il y en a encore plus nombreux qui sont portés disparus, les leurs gardant le faux espoir de les revoir un jour. Serait-ce alors un mensonge de dire que c'est le pouvoir qui tue, alors qu'il fait tout pour camoufler une réalité qui crève les yeux? Ce n'est pas une première au Burundi que les gouvernants tuent leurs gouvernés. Depuis l'arrivée du parti CNDD-FDD au pouvoir, des milliers et des milliers de Burundais ont été tués. Souvenez-vous du plan Safisha, les massacres de Muyinga, Gatumba et dans de nombreux autres endroits où il s'est avéré que le pouvoir était hautement impliqué. Sans ignorer les innombrables personnes tuées ou portées disparues pour avoir manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Qui pour arrêter ces tueries? Pourquoi ce silence du pouvoir alors qu'il n'en ignore pas les auteurs? Il est plus que temps que les dirigeants d'aujourd'hui sachent que les temps du maquis sont révolus et qu'ils doivent protéger toute la population, y compris ceux qui sont considérés comme opposants. Et si ce n'est pas le cas, tous ces crimes finiront par tomber sur la tête d'Evariste Ndayishimiye et ses lieutenants. Et, tôt ou tard, ils en répondront lorsque la justice reprendra ses droits.
Merci Franck Kazé. Et dans la suite de ce journal, le président de la République appelle les Burundais à éviter de tenir pour responsable d'un génocide quelqu'un de telle ou telle autre ethnie. C'est le message lancé ce jeudi par Evariste Ndayishimiye aux différents dignitaires invités dans la retraite qui se tient à Gitega. Ce message est bien apprécié dans les milieux de l'opposition. Charlène Dittigé de l'UPRONA expliquait néanmoins que le langage du président de la République diffère de celui de son parti, le CNDD-FDD, qui enseigne parfois des messages de haine. On fait le point avec Jean-Marie Ndabashinze.
Evariste Ndayishimiye, le président burundais, s'exprimait devant les membres du gouvernement et autres dignitaires présents lors de la retraite clôturée ce vendredi à Gitega. Le président de la République a fait un appel aux Burundais en les appelant d'éviter de qualifier le génocide et d'établir les responsabilités de telle ou telle autre ethnie.
Le génocide ne peut pas exister sans être planifié par le pouvoir. Mais aujourd'hui, on entend par-ci, par-là, que les Tutsis ont tué les Hutus et les Hutus ont tué les Tutsis, et on appelle ça génocide. Oh non! Génocide, c'est le pire des crimes qui puissent exister. Il ne faut pas en faire une plaisanterie. Je voudrais vous dire ceci. Laissez la Commission Vérité et Réconciliation faire son travail. Vous, vous critiquez le travail, l'exhumation des victimes enterrées dans des fosses communes, ça c'est un passage obligé. Car si on n'y prend pas garde, le risque, c'est que les témoins peuvent disparaître puisqu'il s'agit de crimes qui datent d'il y a de longues années. Et donc, pour qu'il y ait crime de génocide, il y a plusieurs étapes. Par exemple, la déshumanisation. On commence par déshumaniser le groupe des personnes ciblées.
Ce message du chef de l'État semble quelque peu impressionner l'opposition. L'UPRONA de Charles Nditije apprécie le message d'Evariste Ndayishimiye, un message qui, selon lui, est loin de corroborer avec celui de son parti, le CNDD-FDD.
On a l'impression que c'est un discours apaisant, un discours digne d'un homme d'État. Et malheureusement, si je pars justement de cette proposition, l'UPRONA Ndayishimiye, en regardant le travail de la CV, on est loin du compte parce que la CV procède à ce que je pourrais appeler une mémoire discriminative et sélective, parce que les fosses communes desquelles on déterre des ossements, la CV réclame haut et fort que ce sont des restes des victimes Hutus du génocide de 1972. Par rapport justement au discours animalisant, le CNDD-FDD tient justement ce type de discours. Rappelez-vous les termes Mujeri, Wipinga. Mujeri, c'est un chien errant et c'est une étiquette qui est collée aux Tutsis. Wipinga, c'est des Hutus non acquis à la cause du CNDD-FDD.
Le message du président burundais était de recadrer les opinions des Burundais si le travail controversé de la commission Vérité et Réconciliation s'éveille en sigle.
Et dans le domaine de l'économie, la carence des devises dans le pays a occasionné la montée des prix des produits de première nécessité. À titre illustratif, le ciment de la société Bousseco, la pénurie du carburant et d'autres produits exportés à l'étranger ou produits localement. La population demande au gouvernement de s'investir pour que la cherté de la vie ne s'aggrave davantage. Les détails avec Prosper Nzissabia.
Parmi les produits dont les prix ont été revus à la hausse à cause du manque de devises au Burundi, nous citons le ciment Buseko fabriqué au Burundi. À part sa pénurie, le sac de 25 kg, là où on le trouve souvent à plus de 30 000 francs burundais, alors que le prix officiel est de 24 500 francs burundais. À part le ciment, même les prix d'autres matériaux de construction ont grimpé, comme les prix des tôles, le fer à béton, les clous, fils électriques, sans oublier les carreaux et les bacs de douche et toilettes à siège. Autre catégorie de marchandises qui a été frappée par son manque de devises, ce sont les pièces de l'échange des véhicules, des motos et des vélos. Par illustration, la réparation des vélos qui était fixée à 300 000 francs burundais, aujourd'hui, ce travail, y compris des pièces à remplacer, se fasse à 350 000 francs burundais. Le pneu du vélo qui s'achetait à 15 000, se vend entre 25 000 et 30 000 francs burundais. Le manque de devises au Burundi a paralysé le secteur pétrolier. La pénurie du carburant qui s'observe provoque la vie chère dans le pays. Autres produits de première nécessité qui sont rares à cause de son manque, ce sont les produits Brarudi. Ce manque de devises n'a pas épargné la revue à la hausse des produits fabriqués par la société Savonor. Le prix du savon a grimpé. Par exemple, celui de 150 se vend à 300 francs burundais, alors que celui qui s'achetait à 500, aujourd'hui s'achète à 700 francs burundais, sans oublier le prix de l'huile qui a été doublé. La situation est identique pour certains denrées alimentaires, entre autres le riz, la farine, le soja et le foufou. Les commerçants disent qu'ils s'approvisionnent difficilement car le franc burundais ne représente pas grand-chose par rapport aux autres monnaies étrangères. Ils revoient à la hausse les prix pour éviter la perte. Ils demandent aux autorités habilitées de faire tout pour disponibiliser les devises pour ne pas retomber dans la vie chère de la population. La situation est ainsi alors que le gouvernement interdit les bureaux de change et que ce travail a été confié aux banques commerciales et la Banque de la République du Burundi, ce qui ne facilite pas la tâche à ceux qui cherchent les devises. Au marché noir, un dollar américain s'achète à 3500 francs burundais, l'euro à 3850 francs burundais, alors qu'à la BRB et aux banques commerciales, le dollar s'achète à 1980 francs burundais et l'euro à 2288 francs burundais.
Le gouvernement devrait revoir sa politique de fermeture de bureaux de change et d'autres voies qui faisaient rentrer les devises au pays, comme l'explique Gabriel Rufini, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle. Il propose une nouvelle politique de stabilité économique pour réguler cette écorance en devises. On l'écoute.
Il y a vraiment plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour avoir des devises. Mais actuellement, nous voyons que c'est pas le cas. Mais c'est possible. Donc, en revenant sur les conséquences de la réalité de ces devises, c'est la hausse généralisée des prix, mais aussi la disponibilité de ces produits. Aujourd'hui, vous voyez les produits, que ce soit les produits locaux, les produits importés, il y a rareté, mais aussi il y a la hausse généralisée de ces prix. Donc ça, ce sont des conséquences de cette rareté de ces devises. Le gouvernement doit tout faire pour que les devises soient disponibles parce que les conséquences sont néfastes. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau des hôpitaux, vous voyez que les médicaments ne sont pas disponibles. Les autres produits, qui sont même des services simples, il y a eu de la hausse de ces services. Jusqu'à 30% seront les responsables de ce secteur, mais aussi même les produits locaux, comme le ciment de Buseko, les produits de la Brarudi, les produits, le sucre, et bien d'autres, parce qu'ils ont besoin de la matière première qui est importée. Ce qu'on ne peut pas parler, c'est des produits pétroliers. Vous voyez, donc, rareté partout, c'est la rareté de ces produits. Donc, nous pensons qu'il faut que le gouvernement fasse tout parce que les conséquences sont tellement néfastes. C'est presque toute l'économie qui est arrêtée. Voilà pourquoi il est urgent que le gouvernement fasse tout.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Le Burundi célèbre ce vendredi la journée internationale de l'épargne. Cette journée est généralement célébrée tous les 31 octobre de chaque année. Au Burundi, selon une étude menée par la BRB en 2018, le taux des Burundais qui ont des comptes bancaires s'élève à 20,88% de la population. Les femmes sont moins représentées, selon Louise Kamikazi, présidente du réseau des microfinances. Le manque d'informations et l'absence de la finance digitale sont les unes des causes de ce faible taux. Suivez-la.
Partons du taux d'inclusion financière. D'après les statistiques de la BRB, le taux d'inclusion financière est de 20,88%. Et de ce taux d'inclusion financière, si on regarde la participation de la femme, nous trouvons qu'au niveau de l'épargne, elle est à moins de 33%. Et au niveau des crédits, elle est à moins de 30%. Le fait que les femmes ne sont pas informées, il y a beaucoup d'idées qu'elles se donnent, entre autres des taux d'intérêt élevés. Mais la réalité est que les femmes qui font leur petit business, surtout à l'intérieur du pays, nous trouvons qu'elles ont des financements grâce aux usuriers. Ces femmes font recours aux usuriers en pensant que les conditions données par les usuriers sont les meilleures. Elles pensent aussi que les garanties sont des garanties qui ne sont pas accessibles, parce que souvent les femmes disent « on n'a pas de titre de propriété ». Mais par contre, si elles étaient informées, elles sauront que les institutions de microfinance proposent des garanties solidaires. C'est la caution solidaire entre les membres d'un groupement. Autre raison évoquée, c'est la peur des femmes en général qui se disent « moi j'ai plus confiance quand j'ai mon argent sur moi, j'ai pas confiance au niveau de ces institutions de microfinance ou bancaire ». Elles ont aussi peur d'avoir ce crédit, que s'il advenait que je ne puisse pas rembourser le crédit, qu'est-ce qui va se passer? Donc elles ont cette peur. Il y a aussi les querelles entre familles au niveau des ménages. Quand la femme contracte un crédit ou bien quand elle va épargner, souvent chez elle à la maison, il y a des querelles. Donc c'est tout ça qui fait que le taux d'inclusion financière des femmes est réduit.
Les habitants contactés par la radio Inzamba sur cette journée indiquent qu'ils n'ont plus de quoi épargner parce que, disent-ils, ils sont dans la misère sans nom et que la monnaie burundaise connaît aujourd'hui une dévaluation terrible. Ces habitants expliquent que l'épargne a en principe une grande importance, surtout quand il faut contracter un crédit. Suivez ces habitants.
Faire l'épargne dans une coopérative ou dans une microfinance, en tant qu'un Burundais qui connaît l'importance de l'épargne, cela me permet surtout de préserver mes revenus afin d'éviter d'éventuels gaspillages. L'épargne me facilite également l'accès au crédit auprès d'une microfinance où j'ai placé mon épargne. Une autre importance d'épargner dans la microfinance, c'est d'éviter des cas de vol quand on garde l'argent dans nos maisons.
Moi, je ne peux pas épargner dans des coopératives et des microfinances pour deux raisons. Et la première raison est que nous sommes dans une pauvreté aiguë et de façon que nous combattons à ce que nous voyons de quoi nourrir la famille. Donc, nous n'avons pas de quoi épargner dans ces microfinances. Deuxièmement, c'est que ces microfinances et coopératives sont du parti au pouvoir. Et puis, nous avons vécu les expériences jadis. Le gouvernement agrée ces microfinances. Finances et ses coopératives, et puis la population burundaise épargne, mais ces microfinances deviennent des bandits. Nous avons des expériences où il y avait des microfinances qui ont été agréées par le gouvernement, mais nous nous sommes retrouvés maigres et douilles parce que ces microfinances ont fermé les portes. Voilà, nous n'avons pas de confiance à ces microfinances et coopératives.
L'épargne dans une coopérative ou microfinance concerne tout Burundais, mais ce qui est difficile est de trouver quoi à épargner. Personne n'ignore la crise économique que traverse le Burundi et son peuple. On peut à peine trouver un peu d'argent pour nourrir sa famille une seule fois dans la journée. Tout Burundais a ce souci d'épargner, mais où trouver l'argent pour le faire? C'est ça le problème.
Et c'est la grogne au sein des agriculteurs de la province de Makamba suite à une pénurie d'engrais chimiques. Ces agriculteurs disent que la saison culturelle 2021-2022 est à son deuxième mois, mais qu'ils n'ont pas encore reçu l'engrais chimique qu'ils ont payé. Ils demandent à l'autorité habilitée de régler cette affaire dans les meilleurs délais. Les détails avec Joséphine Jones-Mouziman.
Certains agriculteurs sont allés même chercher cette fumure minérale au stock principal situé au chef-lieu de la province Makamba sans succès. Certains préfèrent s'approvisionner sur le marché noir, mais cette denrée est trop chère selon eux, car un sac de 25 kilos qui s'achète à 29 000 francs pour le prix officiel s'achète à 50 000 francs, soit un prix de 2 000 francs par kilo. Ils accusent certains distributeurs à octroyer une grande quantité aux commerçants qui les vendent à leur tour aux agriculteurs à des prix exorbitants aux agriculteurs alors qu'ils avaient eux aussi payé. Ces agriculteurs disent qu'ils ne voient sur quel pied danser. Vu que la saison culturelle en cours enregistre déjà 2 mois de retard alors qu'ils n'avaient pas encore semé.
Nous avons un problème très sérieux lié au manque d'engrais chimiques. Nous avons payé dès le mois d'août la totalité. Tout le monde aujourd'hui se promène avec des reçus de paiement. À l'heure où je vous parle, le problème d'engrais chimiques reste toujours posé. C'est dommage. La saison culturelle du maïs bat son plein sans du fumier. Nous attendons maintenant la semence du haricot. Espérons que l'engrais chimique sera déjà disponible. Mais nous n'y croyons vraiment pas. C'est vraiment étonnant qu'ils continuent à percevoir de l'argent sans nous dire à quand l'engrais sera disponible.
Les agriculteurs demandent aux autorités administratives de saisir la question à main pour qu'ils puissent bénéficier de cette fumure minérale qu'ils ont payée. Certaines des autorités administratives contactées disent qu'elles sont au courant de la situation en promettant que la situation sera bientôt réglée. Le manque de carburant serait à l'origine de cette carence dans les points de distribution car ceux qui ont gagné le marché ont manqué du carburant. Certains professionnels dans le domaine de l'agriculture estiment que le gouvernement devrait encourager la population à utiliser du fumier traditionnel car l'engrais chimique détériore le sol. D'autres disent que le gouvernement encourage la population d'utiliser cet engrais chimique parce que certains d'entre eux sont actionnaires dans la société FOMI qui produit et commercialise de l'engrais.
Merci Joséphine Jones-Mouziman, et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Nzambagatera Kawe. Au revoir et à la prochaine.